journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous parlerons de l'enjeu de la sauvegarde des archives. La maison des archives du Congo, la MAC, organise lundi prochain à l'Académie des sciences d'Outre-mer une conférence autour de la préservation et de la valorisation des archives de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Alors en quoi la préservation des archives est un enjeu de souveraineté? Comment conserver ces archives? Et comment ces archives participent-elles à la reconnaissance des crimes de la colonisation en les documentant? Nous en parlerons et nous poserons toutes ces questions à notre invité, Assim Tall Boukambou. Il est président fondateur de la Maison des archives du Congo. Pour intervenir, nous faire part de vos commentaires, poser vos questions à notre invité. Le numéro pour participer, c'est le 01 55 07 58 00. 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. N'oubliez pas l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Avant de se pencher sur ce dossier, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis des JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Madame Hartmann, la France, c'est un État hypocrite que nous dénonçons tous les jours. Si par exemple, chez nous, à la République démocratique du Congo, à la répression du mois de septembre 2015, Kabila avait repoussé, Kabila avait tué les Congolais avec les armes provenant de la France. Si nous regardons encore au Tchad, si nous regardons au Togo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, tous et dernièrement, en Guinée-Conakry, là où les opposants, il a failli perdre sa vie parce qu'il y avait l'arme de la France qui est en Guinée et Guinée-Conakry. C'est pour cela que nous déplorons, c'est ça. Mais quand nous serons aux affaires, nous, le peuple congolais, l'achat de l'arme, ça sera vraiment un coup. Ou bien, on n'achèterait plus les armes pour nos pays, Aïkoumo Pongiré, sans combattant RCK.
Oui, allô, bonjour, Africa numéro 1. Je m'adresse les ressortissants maliens et je m'adresse les Maliens de l'intérieur. La communauté internationale, les médias internationaux, d'aller faire les enquêtes, c'est ce qui se passe au Mali. Raison de Kayi. Il y a des gens qui ont refusé le mot d'esclavage. Les gens se sont maltraités dans leur village. J'ai dit les villages de Kayi. D'aller faire les enquêtes là-bas. Les gens sont maltraités parce qu'ils ont refusé des mots d'esclavage. Je vois que c'est l'injustice. Dès que tu as un certain nom de famille, on te traite comme tu es un esclave. J'ai dit vraiment, ces pratiques, ça doit s'arrêter maintenant. Les médias, allez faire les enquêtes là-bas. Il y a certains villages, ils sont en train d'écarquer certains gens parce que c'est une bonne famille. Vraiment, je vous demande pardon d'aller faire les enquêtes pour que ça s'arrête et que Dieu bénisse l'Afrique et Mali. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est l'opposition camerounaise qui vient malheureusement de légitimer le pouvoir du dictateur Paul Biya en se présentant contre lui. Ils auraient dû se douter, car tous ceux qui auparavant se sont déclarés opposants à ce tyran sont morts. Et eux sont pourtant bien vivants aujourd'hui. Et en plus, Biya n'avait même pas besoin de tricher, car trois points plaidaient en sa faveur. D'abord, l'acceptation curieuse par l'opposition de cette ersatz et simulacre de démocratie qu'est l'élection à un seul tour, et les deux conflits contre Boko Haram au nord et les anglophones grâce auxquels il a pu se présenter comme le seul rempart pour défendre l'unité nationale. Paul Biya a-t-il fait ressusciter artificiellement le conflit anglophone-francophone dans le but de se faire élire? Je me pose cette question. Successeur de la lignée d'Amadou Ahidjo, les milieux économiques lui avaient recommandé que plus jamais ne se répétassent les événements sanglants qui ont déchiré le Cameroun dans les années 50. Du coup, il voit des Mounier, des Zoum Niobe et des Ernest Ewande partout. comme le disait une vieille chanson d'un très grand musicien africain des années 70, considérable.
Bonjour Africa numéro 1, moi je m'adresse à nos dirigeants africains qui disaient que Union africaine. Union africaine, là, qu'est-ce que vous attendez? Ce qui se passe actuellement entre Angola et le Zaïre, ancien Zaïre. Ils expulsent les pauvres innocents, ils tapent comme des moutons, on les jette dans les. On les tue, et même il y a plein de. Tous les gens qui sont là, même les, paraît-il que même des Maliens, ils ont commencé à nous maltraiter là-bas. Vous laissez faire jusqu'à ce que ça devienne grave. Après, vous prenez les avions et commencez une négociation. Vous attendez quoi que les Européens vous donnent ordre de dire Angolais, vous arrêtez ça. C'est pour, peut-être c'est pour ça que vous ne pouvez pas bouger. Moi, je ne vous comprends pas. On dit Union africaine. Si c'était un pays européen qui a fait ça aux immigrés africains, vous allez voir le monde entier, vous dire, ah oui, ce n'est pas normal. Vous-même, vous dites que c'est l'Union africaine. Vous avez vu un pays européen qui fait ça, un autre ressortissant européen. Regarde l'Europe, il n'y a même pas de frontières. Tous les gars qui ont des papiers quarantaine européens, qui passent à un autre pays comme un oiseau. Et vous laissez faire et vous attendez que les Européens vous donnent l'ordre pour intervenir. Voilà. Merci Africa numéro 1. C'est la honte pour notre continent.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, le défi de la conservation et de la valorisation des archives. Nous en parlons avec Assim Tal-Boukambou, président fondateur de la MAC, c'est la Maison des Archives du Congo. Assim Tal-Boukambou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors vous avez fondé et vous présidez la MAC, je viens de le dire. Vous organisez le 29 octobre prochain à Paris, à l'Académie des sciences d'Outre-mer, une conférence intitulée « Valorisation des archives et innovation numérique ». C'est de 15h à 17h. Quel est l'objectif de cette conférence?
Disons que l'objectif de cette conférence, c'est sensibiliser les opinions africaines et les opinions africaines de la diaspora, mais aussi les opinions françaises, européennes, au sujet donc de ces archives, puisqu'aujourd'hui on parle de mémoire partagée, de revisiter cette mémoire. Donc l'objet de cette conférence, c'est tout simplement sensibiliser, informer de ce qui existe et de ce qui est entrepris dans le cadre donc des archives de l'Afrique équatoriale française.
Alors on va voir un peu de quoi on parle quand on parle des archives de l'AEF. J'ai un peu fouillé en préparant cette émission et selon Jean-Pierre Batte, un archiviste et historien qui interviendra d'ailleurs lors de votre conférence, il dit ceci, Jean-Pierre Batte, si l'histoire des archives coloniales de l'Afrique occidentale française est largement connue, ce n'est pas le cas des archives de l'Afrique équatoriale française. Pourquoi sont si mal, les archives de l'AEF sont mal connues?
Je dirais que tout simplement, je pense que pour des proximités géographiques, je pense que pour la France, l'ancienne métropole, l'ancienne puissance coloniale, Dakar c'est plus proche que Brazzaville. Mmh. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a un grand travail qui a été entrepris déjà avec les autorités de l'époque, avec l'épaule de Sédar Senghor, la veille des indépendances. Ils ont pu conserver sur place les archives. Et puis ils ont eu donc une politique de formation des archivistes qui ont fait un travail remarquable. Pour l'Afrique équatoriale française, il faut se souvenir que on a moins 50% des archives qui ont été, la veille des indépendances, qui ont été embarquées en métropole. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les archives de souveraineté et d'autres. Et donc du coup, aujourd'hui,
Les archives de l'administration coloniale au moment des indépendances en 1960 ont été séparées en deux. La France a pris ce qu'elle a déclaré des archives dites de souveraineté. Elle a laissé à Brazzaville, capitale de l'AEF, de la France libre, les archives dites de gestion. Alors, de quoi vous parlez-vous? Vous parlez plutôt des archives de gestion qui sont à Brazzaville?
Alors nous, on parle des archives de gestion qui sont à Brazzaville, tout simplement parce que ces archives-là, donc Brazzaville étant la capitale de l'Afrique équatoriale française, donc nous avons hérité donc des archives donc du Congo, du Moyen-Congo, le territoire du Moyen-Congo qui va donner le Congo-Brazzaville, du Gabon, du Centrafrique et du Tchad. Et nous parlons également donc des fameuses archives de souveraineté qui ont été tout simplement renvoyées en France, en métropole. Et tout simplement parce que dans le cadre de justement des œuvres d'art, du patrimoine, puisqu'aujourd'hui on parle de rapatrier les archives et les œuvres d'art qui appartiennent à l'Afrique, donc nous considérons tout simplement que les archives font également partie de ce patrimoine commun.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'en prenant les archives de souveraineté, la France finalement a pris pour elle les archives les plus sensibles, les dossiers les plus sensibles? C'est
oui, tout à fait, oui. Mmh. C'était les archives les plus sensibles. Donc, je pense que, bah, le temps faisant son œuvre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'archives, des dossiers qui sont déclassifiés. Et pour nous, ce qui est important, c'est que les chercheurs africains, les historiens, les documentaristes, bah, puissent accéder à ces archives en temps heure via la numérisation.
Qu'on soit clair, qu'on explique un peu aux auditeurs, que contiennent ces archives? C'est quoi, des correspondances entre gouverneurs, des déclarations,
Vous avez un peu de tout. Donc, vous avez aussi bien les rapports donc des administrateurs coloniaux hein, dans leurs localités respectives. Vous avez également des rapports sur les compagnies concessionnaires, parce qu'il faut pas oublier que le Congo, l'Afrique centrale, bah la colonisation c'était pas une promenade de santé. Donc, je pense que en Afrique, la colonisation a été la plus dure en Afrique centrale. En RDC, République démocratique du Congo pour le Congo belge, mais faut dire que l'Afrique quotidienne française c'était également la même chose.
Et on parle Français beaucoup des crimes hein, de Léopold, du roi belge en RDC, notamment voilà, qui coupait des mains avec la culture, voilà, la production de caoutchouc. Mais le Congo, Brazzaville, j'allais dire, la République du Congo n'a pas été exempte. Il y a notamment cette question de la construction hein, du chemin de fer Congo-Océan, où il y a à peu près, on estime hein, que 17 000 hommes ont perdu la vie sur ce chantier. Est-ce que ces archives permettraient de faire la lumière sur ces crimes de la colonisation?
Exactement. D'autant plus que, bah, vous savez que on appelait donc la colonie donc de l'Afrique équatoriale française, c'était bon la cendrillon de l'empire colonial français. Donc c'est-à-dire qu'on avait donné des concessions à
la mal aimée, l'AEF était la mal aimée de le...
voilà. Et bah ironie de l'histoire, c'est que on avait attribué donc à des concessionnaires privés, donc des entreprises, des industriels d'hier, hein, donc la concession de ces territoires, l'exploitation, la mise en valeur. Et puis bah l'ironie du sort, c'est que bah la mal-aimée va devenir bah la capitale de la France libre en 40 tout simplement et qui va offrir au général de Gaulle bah la possibilité de pouvoir tout simplement bah restaurer l'autorité de la France.
Est-ce que ces archives hein, alors donc on l'a dit, une part est partie en France, en métropole pour reprendre votre terme, une autre part est restée à Brazzaville. Alors ces archives étaient jusqu'ici hein, stockées au centre de formation et de recherche en art dramatique, lequel s'est effondré le 20 février 2018. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que des archives ont été perdues à cette occasion?
Ben disons que le bâtiment, effectivement, c'est un bâtiment de 1905-1910 à peu près, donc ben c'est un bâtiment là où s'est tenue la fameuse conférence de Brazzaville, là où le général de Gaulle a annoncé qu'on va passer d'empire colonial à l'Union française, même si on jouait sur les mots, mais c'était plus ou moins la même réalité. Ce bâtiment s'est effondré et Dieu merci, je pense que les archivistes congolais et les passionnés que nous sommes, certains veulent dire déménager les archives dans la partie du bâtiment qui s'est pas écroulée. Donc on a tiré un peu la sonnette d'alerte auprès de toutes les autorités compétentes, en disant tout simplement que nous, en tant que MAC, la Maison des Archives du Congo, nous prenons une responsabilité, que nous allons appuyer effectivement les gens de bonne volonté, les personnes de bonne volonté dans le ministère de la Culture et des Arts, pour pouvoir donc trouver des solutions adaptées. Et la première des solutions, c'était qu'il fallait déménager ces archives-là. Donc c'est ce que nous avons fait avec notamment un groupe, un industriel spécialisé du déménagement. Donc, sur place.
Avec un groupe industriel, on peut avoir son nom?
Oui, le groupe AGS Mobilitas. Donc,
c'est un groupe congolais?
C'est un groupe français qui a des filiales, qui a fait en gros fortune en Afrique.
Ouais.
Donc, tout simplement, on leur a dit, bon voilà, je pense que je leur ai fait comprendre que dans le cadre de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises, je pense qu'ils pouvaient se faire une belle publicité en étant utiles. Donc, nous avons pu donc déménager toutes ces archives-là avec leur camion.
Rassurez-moi, c'est pas un industriel qui a fait fortune sous la colonisation?
Non.
Parce que vous parliez tout à l'heure du chemin de fer Congo-Océan, il y a des grands groupes français comme SPIES, Batignolles, voilà, qui ont fait leur richesse aussi durant la colonisation et qui existent aujourd'hui.
Exactement. Disons que ce groupe-là, c'est un groupe qui a été créé par un Français d'origine tunisienne dans les années 70, c'est un groupe familial et puis bon, qui prospère en Afrique. Et puis bon, qui parle effectivement, qui s'inscrivent dans cette dynamique également de numériser, et nous avons trouvé intéressant de pouvoir travailler d'un commun accord là-dessus.
Donc c'est eux qui ont financé le déplacement des archives, c'est ça? C'est ce groupe-là? En partie.
Ils ont assuré concrètement l'aspect matériel en déménageant, tout simplement en nous mettant à disposition des camions de déménagement qu'ils avaient.
C'est très clair. Alors l'autre défi, j'imagine, pour conserver, c'est parce qu'on parle d'archives, on parle de papier, de dossier, on sait la fragilité du papier. Le défi, ça va être aussi de numériser ces archives?
Le défi, c'est effectivement celui-là, puisque la deuxième étape, ça va être donc numériser ces archives-là. Déjà, il fallait les sécuriser, donc en les déplaçant. Maintenant, le deuxième défi, c'est donc les numériser. Pourquoi les numériser? Bah, ça nous permet tout simplement d'avoir une double conservation. Nous avons donc des archives papier à conserver. Bon, on peut pas toujours les sortir pour des raisons de fragilité, mais le numérique va nous permettre également de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, aux chercheurs, aux historiens et puis aux documentaristes que nous sommes.
On va tout de suite écouter Guy qui nous a appelé. Guy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guy. Ah, on vous entend mal.
Non, c'est bon, je suis là.
C'est bon, vous avez enlevé votre kit main libre. Bienvenue dans le JDA, Guy. Vous vouliez souligner hein, l'aspect historique hein, des archives.
Bien sûr, c'est très important parce que ça nous permet, nous, notre génération, de savoir et de connaître ce qu'a vécu cette partie de l'Afrique et aussi aux générations, à nos enfants et à nos ceux qui vont venir après, de connaître aussi l'histoire. Mais ma question est, parce que j'ai écouté, bonjour à votre invité déjà pour commencer, excusez-moi.
Bonjour.
Ma question est, vous avez dit qu'il y a une partie, il y a deux parties en fait, une partie que la France a laissée comme archive, et il y a une partie qu'elle a prise. Vous pensez que la France va restituer cette partie-là, mais quel levier vous pensez activer pour que la France restitue ces archives qu'ils ont pris? Quand quelqu'un prend quelque chose, c'est dans le but de cacher. Et si à la base, ils n'ont jamais reconnu, je peux me tromper, hein, que l'esclavage pour l'Afrique a été vraiment un tort, ce qui a été fait, ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ne l'ont jamais fait hein, jusqu'ici. Je peux me tromper.
C'est une excellente question, Guy. C'est vrai que vous organisez cette conférence en partenariat avec l'ambassade de France à Brazzaville.
Organise cette conférence en partenariat avec une association de la société civile en France, Europa. Mm-hmm. Et donc les partenaires que nous avons conviés à la table, il y a donc le ministère de la Culture des Arts du Congo, le ministère de la Culture français, l'ambassade de France en poste, donc l'ambassade de France au Congo. Mm-hmm. Et nous avons donc l'école des Chartres, qui est l'une des plus grandes écoles réputées au monde depuis la Révolution française. Hein,
en France.
Concernant les archivistes, bah, ça effectivement.
Donc, la question de Guy, c'était celle-ci. À quel moment peut-on est-ce que la France finalement est la mieux placée pour conserver ces archives? On sait les déclarations hein, sur le Rwanda, etc. À chaque fois, on promet de déclassifier. On sait, exactement, c'est ce que disent les chercheurs, que c'est plutôt caviardé. C'est-à-dire que quand on dit caviardé, vous avez des gros traits noirs qui cachent les informations sensibles. Est-ce que, à Simtal Boukambou, vous faites confiance à la France pour rétablir cette vérité qu'elle a voulu cacher?
Mais disons que je dirais que ce n'est pas question de faire confiance à la France ou pas. Il faut que ces questions soient saisies par les opinions publiques. Africaine d'abord. C'est d'abord les Africains qui sont conservés, puis entre guillemets, et la France, puisque nous avons une mémoire commune. Donc le problème, c'est que pour l'instant, l'histoire avait été écrite uniquement par la France. Et nous avons des ressentis, nous avons des témoignages des populations, nous avons, nous, à titre personnel, nous avons collecté énormément d'informations. Donc ce que nous souhaitons tout simplement, c'est mettre tout sur la table. Alors, je ne vais pas ici dire toutes les cartes et les leviers que nous allons utiliser, mais nous sommes là tout simplement pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Parce qu'on parle de mémoire partagée, donc parlons peu, parlons bien, parlons de faits réels.
C'est très clair.
Exactement, excusez-moi.
Merci, allez-y, Guy.
Ma question est, bien sûr, il faut s'asseoir sur la table, parlons, vous allez parler, mais sur quoi comptez-vous vous appuyer? Parce que ce que vous allez demander, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Qui se passe de pouvoir en pouvoir, c'est-à-dire quand un tel vient, quand Macron va partir, il va certainement dire à un tel, ça, il faut vraiment le garder, on sait que c'est comme ça se passe. Sur quoi comptez-vous vous appuyer pour toucher, pour arriver à toucher leur faire comprendre que...
Si je peux me permettre, moi j'ai compris la réponse, Guy. Assim Tal disait finalement, c'est aux opinions aussi de faire pression, c'est quand on sensibilise les opinions, s'il y avait un grand nombre de personnes comme vous qui disent, nous on veut savoir la vérité, c'est comme ça, et d'ailleurs que la France a plus ou moins plié sur le Rwanda, sur le Burkina Faso, c'est-à-dire que vous avez des groupes de société civile qui se mobilisent et qui demandent pour...
Exactement, donc d'autant plus que nous justement on a créé la maison des archives Congo dans ce but-là, parce qu'on s'est dit qu'il faut que des personnes intéressés de près ou de loin, s'emparent de ces questions-là. C'est pas au gouvernement de s'emparer de ces questions-là. Parce que la France, Macron a fait des belles déclarations. Bon, le président, il passera. Mais les deux pays resteront, les deux entités resteront. Donc, il faut tout simplement que nous sachions de quoi nous parlons. Nous parlons des archives. Eh bien, il faut que ce soit accessible à tous nos chercheurs. Et pour cela, il faut tout simplement porter la parole sur la place publique. Mmh. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Donc aujourd'hui, exactement. Moi, c'est vrai qu'en tant que documentariste, j'ai accès à énormément d'archives que le commun des Africains ou des Congolais auxquels ils n'ont pas accès. Mmh. Tout simplement parce que je suis estampillé, entre guillemets, érudit ou documentariste. Ce que nous souhaitons, nous...
Ça vous donne des autorisations pour aller dans, voilà. Dans les salles où il y a des archives et des consulter.
Et voilà. Et si moi, je peux le faire, entre guillemets, à titre professionnel, donc ce que nous souhaitons, nous, c'est que tous les Africains puissent accéder. Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir ce qui s'est passé en 1898 dans tel coin du Tchad, du Centrafrique, etc. Donc c'est ça notre bataille.
Alors on parle beaucoup de la France et de la responsabilité de la France. Mais je vous remercie, Guy... Oh.
Merci. Merci à votre invité.
Merci à vous, Guy. Restez à l'écoute. Bonne journée. Alors, on parle beaucoup de la France, mais quid aussi du Congo? Il n'y a pas aussi une responsabilité des pays, des États africains à conserver leurs archives? Est-ce qu'ils le font? S'ils ne le font pas, est-ce que c'est par manque de moyens financiers? C'est un coût, il faut le reconnaître. Ou est-ce qu'il y a un manque de volonté politique?
Disons que je dirais que tout simplement, c'est que nous avons eu un bon nombre de fonctionnaires donc qui sont issus comme d'administration coloniale et qui ont concrètement conduit les premières administrations post-coloniales et qui ont fait leur travail, puisqu'il y a des archivistes qui ont été formés en conséquence. Alors, je dirais pas que ces personnes-là étaient payées. Ces personnes-là ont fait leur travail. Donc, on peut pas parler de moyens matériels. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les moyens d'hier, parfois pour certains États comme le Congo, le Congo a plus d'argent qu'hier. Donc, si nous avons pu conserver, faire un travail, au moins jusqu'à la partie, jusqu'en 1885, donc je pense qu'aujourd'hui, avec plus de moyens, on peut faire la même chose, voire mieux. C'est pour ça que nous proposons, nous, entre autres, la numérisation, qui a un coût, mais un coût qui peut être pris en compte par, aussi bien par les gens de la société civile, les passionnés que nous sommes, mais également avec un appui matériel, comme on dit, des États. Mais c'est à nous de bousculer nos États. C'est à nous de bousculer, comme on dit, nos responsables politiques, de part et d'autre, hein, du côté africain comme du côté français.
On va écouter Dédé. Bonjour, Dédé.
Oui, bonjour, madame. Bonjour, les auditeurs d'Africa numéro 1. Monsieur, que vous votre invité. Mais je trouve qu'il a une excellente approche de ce qu'il est en train de faire, une bonne analyse de la situation dans laquelle il se trouve. Ça veut dire qu'il a... chercher d'abord à avoir un support. Un support, quelque chose qui existe. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas.
Alors, je vais me permettre de rappeler, parce que je ne l'ai pas fait en introduction, que Assim Tall Boukamou, vous l'avez fait un peu, mais documentariste, et vous avez fait un excellent documentaire qui s'appelle Révolutionnaire, voilà, qui revenait aussi sur l'histoire récente du Congo. Allez-y, Dédé.
Oui, je veux dire que le fait d'avoir des supports est fondamental. Le reste maintenant, parce que lui, il le dit bien, ce que nous voulons, c'est toucher le public. Maintenant, au public de s'intéresser. S'il s'intéresse, c'est tant mieux. S'il ne s'intéresse pas, c'est tant pis. Mais au moins, on a un support sur lequel on peut discuter, on peut faire des analyses, on peut faire des recherches. Avec des recoupements, on peut trouver, ça il le sait, on peut trouver la vérité. Mais le problème maintenant, c'est de dire, bon, le public il est là, le support doit exister. Quelle est la meilleure façon de garder ce support-là pour qu'il perdure, pour qu'il se... Ses relations avec la France... Peu importe, on s'en fout, on veut quelque chose sur quoi on peut discuter. Maintenant, si les politiques veulent en faire leur politique, c'est leur problème, mais toucher le maximum de public, qu'on sache qu'il y a quelque chose qui a existé, voilà le support, voilà les preuves. Et l'analyser et avoir d'autres renseignements, avoir des recoupements, avoir des recherches, avoir des chercheurs, des documentalistes qui vont donner d'autres documents pour venir confirmer ce qui existe ou un complément de ce qui existe. Tant mieux. Moi, je vois que son analyse, son approche de la situation est excellente. Qu'il ne cherche pas à accuser qui que ce soit ou à dire qui. Non, ce qu'on veut, c'est un support. À partir de ça, le public pourra faire ce qu'il a à faire, analyser, juger, même aller en justice, ça c'est le problème du public. Mais lui, sincèrement, chapeau.
C'est très clair. Merci Dédé pour votre contribution à cette discussion. Je crois que votre radio était allumée, donc je pense que c'était un peu difficile pour vous de parler. Dédé, hein, qui souligne votre travail, on sait aussi l'importance, hein, de connaître l'histoire pour avancer. Et c'est aussi l'importance aussi peut-être des historiens. Est-ce que les historiens africains se sont suffisamment saisis de cette histoire? Est-ce qu'il y a suffisamment d'historiens au Congo ou est-ce qu'il en manque un peu?
Disons qu'il y a beaucoup d'historiens en Afrique et au Congo, comme dans beaucoup de pays africains. Alors, certains en écrit, n'ont pas été éditées. Malheureusement, toutes ces histoires-là ne sont pas suffisamment enseignées dans les écoles, c'est-à-dire à l'école primaire, au collège, au lycée. Beaucoup d'Africains apprennent leur histoire, l'histoire de leur pays, de leur territoire, de leur localité, tout simplement quand ils sont à l'université, ce qui est anormal. Alors, il y a eu des faiblesses hier, mais bon, comme je dis souvent, vous savez, en 40 ans, 30 ans d'indépendance, certains États ne pouvaient pas tout faire. Mais je pense que pour la génération issue, la génération post-coloniale, en guillemets, ceux qui sont nés après les indépendances, c'est à nous tout simplement de prendre nos responsabilités. Parce que effectivement, comme a dit l'un de vos visiteurs, bah, derrière nous, c'est les enfants et les petits-enfants. Donc voilà, si nous ne le faisons pas, bah, nous passons le bébé aux générations d'après.
Alors justement, voilà, Dédé a insisté hein, sur la nécessité de sensibiliser l'opinion, comme vous l'avez dit. Donc on va rappeler quelques informations sur la conférence. C'est lundi 29 octobre de 15h à 17h à l'Académie des sciences d'Outre-mer. C'est 15 rue La Pérouse dans le 16e arrondissement à Paris. L'entrée est libre ?
L'entrée est libre, il faut tout simplement réserver... voilà, sa place auprès de l'Académie des sciences d'Outre-mer.
On a un petit numéro de téléphone, non ?
Voilà, le numéro de l'Académie des sciences d'Outre-mer, vient à redac@academiedoutremer.com.
Bon, je chercherai, parce que là, c'est pas sur ma feuille. Moi, j'ai juste l'adresse à 15 rue La Pérouse, dans le 16e. On cherchera un numéro à l'Académie des sciences d'Outre-mer. C'est donc le lundi 29 octobre de 15h à 17h. Hein. Il y aura un mot d'accueil par Pierre Génie, hein, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Michel Bubminisek de l'École nationale des chartes, hein, qui est spécialisé dans l'archivage, et de Kamianga Bukambu, président fondateur de Europa, notamment aussi un panel de témoignages. Merci beaucoup, Assintal Boukambou.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle hein, cette conférence le 29 octobre sur la valorisation des archives et innovations numériques. Hein, l'importance de connaître son histoire. Je rappelle aussi que vous êtes documentariste, Assintal Boukambou, réalisateur du film Révolutionnaire. Merci à tous hein, de votre participation. Il y avait Ousmane qui avait une question. On n'a pas le temps de le prendre. Il nous reste seulement 50 secondes. On va peut-être voilà, la prendre et puis on demandera une réponse plus tard à Tal. On se donne rendez-vous demain, chers auditeurs. Justement, ce sera la libre antenne hein, du JDA. Vous pourrez vous exprimer sur les sujets de votre choix. N'hésitez pas à vous inscrire ou à nous faire part hein, de vos commentaires en nous laissant un message sur le répondeur. Je rappelle le numéro du répondeur, c'est le 01 55 07 58 05. 01 55 07 58 05. Vous pouvez également nous envoyer des emails. L'adresse mail de l'émission, c'est JDA, comme journal des auditeurs, JDA@africa1.com. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique et la vraie radio africaine. À demain.